Excellente journée sur Europe 1. Il est midi.
Très sincèrement, ce matin, est-ce que vous savez déjà que les jours politiques de Richard Ferrand sont comptés ?
Non, je crois qu'ils sont encore très longs.
La Macronie fait bloc derrière Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale, mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, entend rester à son poste.
Dossier complet en ouverture de ce journal avec la réaction d'Anticor à l'origine de la plainte, de la seconde plainte, Sibeth Ndiaye, que vous venez d'entendre, les explications du service politique d'Europe 1 et les réactions de l'opposition. La réforme des retraites, la fronde n'a pas tardé. Grève de 24 heures demain à la RATP. Elle promet d'être très, très suivie. Et les usagers sont bien sûr les premiers touchés.
Une grosse journée de galère, oui. Ça risque d'être infernal. Des métros toutes les 40 minutes, ça fait vraiment très peur.
Mes salariés travailleront de chez eux. C'est le 21e siècle et il faudrait peut-être que les gens de la RATP s'y mettent au 21e siècle.
Dans ce journal également, 5 grandes villes de France, dont Paris, lancent une omerta contre les pesticides. Est-ce un coup de force contre le gouvernement ? La cigarette électronique, bientôt interdite aux États-Unis. Qu'en pense le professeur Dotzenberg, fervent défenseur de la e-cigarette ? Il sera en ligne avec nous. Les ordinateurs, qui remplacent peu à peu les manuels scolaires, dans le Grand Est, pas toujours à bon escient.
Mon voisin de classe, il y a 2 jours, en anglais, il a acheté une paire de chaussures... Sur internet quoi, donc bon voilà, c'était...
Oui, ça dissipe vachement, oui, ça c'est clair.
Et puis le coup d'envoi de l'Euro 2019 de volley en France, un sport pas toujours connu de tous. Nous serons avec le directeur général de la Fédé, Arnaud Dagorne. La tendance météo, Céline, journée calme et plutôt ensoleillée.
Oui, c'est le cas sur les trois quarts du pays, mais il y a aussi des nuages. On les retrouve encore cet après-midi de la Bretagne à la Lorraine en passant par la région parisienne. Côté température, c'est très doux, une moyenne qui va de 21 à 30 degrés du nord au sud.
Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1. Europe 1. Richard Ferrand a donc été mis en examen, Pierre, pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Emmanuel Macron garde toute sa confiance au président de l'Assemblée.
C'est ce qu'a dit ce matin la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Elle a choisi Europe 1 en exclusivité pour sa prise de parole.
D'abord, Richard Ferrand est mis en examen, donc jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Un membre du gouvernement, il est nommé. Un parlementaire, il est élu. Et quand on est président de l'Assemblée nationale, on est élu 2 fois. On est élu d'abord par ses concitoyens. Et moi, je veux rappeler que Richard Ferrand, alors que l'affaire était connue, est retourné devant les électeurs. Il a été réélu par les habitants du Finistère qui lui ont donc témoigné de leur confiance. Ça, c'est un élément qui est important. Et ensuite, Richard Ferrand, il a été élu par ses pairs. Après, oui, il est logique que le président de la République, et c'est effectivement le cas, lui conserve toute sa confiance.
Très sincèrement, ce matin, est-ce que vous savez déjà que les jours politiques de Richard Ferrand sont comptés ?
Non, je crois qu'ils sont encore très longs.
La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, ce matin sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. L'intéressé lui-même a exclu de démissionner, déterminé, dit-il, à poursuivre sa mission et reste serein sur l'issue de la procédure.
Le président de l'association Anticor, qui a lui relancé le dossier après un premier classement sans suite, est totalement choqué par l'attitude des députés marcheurs aussi. Écoutez Jean-Christophe Picard.
Moi, ce qui me choque, c'est que 254 députés, connaissant les faits, qui n'étaient pas contestés, estimaient que M. Ferrand pouvait être président de l'Assemblée nationale, alors même que lui-même avait estimé qu'il ne pouvait plus rester ministre. Donc, on nous explique que quelqu'un qui n'est pas assez bien pour être ministre peut être président de l'Assemblée nationale. Ça nous semblait déjà à l'époque surréaliste. Il y a 254 députés qui trouvaient ça très bien. Donc, maintenant, ils vont devoir assumer d'avoir un président mis en examen, ce qui est quand même assez incroyable. Et je pense qu'en cherchant bien, on pourrait quand même avoir un président d'Assemblée nationale qui n'est ni mis en examen, ni susceptible de l'être dans les prochains mois. Et c'est un débat qui n'a lieu qu'en France. Dans des pays comme la Scandinavie, on ne parlerait plus depuis longtemps de M. Ferrand.
Le président d'Anticor, interrogé par Alain Accau. Aurélie Herbeumont est avec nous du service politique d'Europe 1. C'est un contexte à tout le moins électrique. Franchement, est-ce que Richard Ferrand peut rester ?
Eh bien, absolument rien ne l'oblige à démissionner. Richard Ferrand est d'ailleurs déterminé à poursuivre sa mission. Son entourage fait valoir qu'il y a déjà eu un classement sans suite et n'imagine pas d'autre issue cette fois. Pas de jurisprudence baladure qui tienne pour la Macronie. Vous savez, la démission d'un ministre mis en examen puisqu'il est élu et pas nommé, c'est l'argument brandi par les ministres qui s'expriment depuis ce matin, comme Sibeth Ndiaye qu'on a entendu tout à l'heure. Mais ce qu'il est important de regarder, c'est l'attitude de l'opposition à ce stade. Il n'y a pas de vague d'appel à la démission. Olivier Faure, patron du PS et Nicolas Dupont-Aignan font partie des rares à la réclamer. Quelques voix de droite aussi, mais globalement, pas de levée de bouclier. Gérard Larcher, le président LR du Sénat, n'a par exemple pas l'intention de crier avec les loups, selon un proche, car mise en examen n'est pas culpabilité. Le Rassemblement national est aussi très mesuré. On verra ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui fait sa rentrée cet après-midi. Il faut dire que beaucoup de partis sont concernés par des enquêtes, mais dans la majorité, je peux vous dire que certains craignent quand même l'effet que ça pourrait avoir dans l'opinion publique.
Merci Aurélie Herbemont du service politique d'Europe.
Vous parliez des réactions, Aurélie. Eh bien justement, nous allons voir que suivant les partis, c'est un peu différent. Écoutez par exemple ce qu'en dit le député et porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu.
On a eu des gens qui ont donné des leçons pendant des mois et des années, disant qu'ils allaient laver plus blanc les uns que les autres, et qui aujourd'hui sont tout penauds à expliquer que lorsqu'on est mis en examen, c'est la présomption d'innocence qui doit valoir. Bah oui, en politique, il y a des principes, désolé de le rappeler, ces principes, ils valent pour tout le monde, y compris pour les adversaires politiques, et nous considérons que effectivement, quand on est mis en examen, il y a une présomption d'innocence qui joue, ça l'est pour François Fillon, ça l'est pour Richard Ferrand, ça l'est pour l'ensemble de la classe politique, et l'ensemble des gens qui sont mis en examen d'ailleurs, même en dehors de la politique, sinon, si on respecte pas ces règles de droit, il n'y a plus de droit.
Le député Rassemblement National Sébastien Chenu, interrogé par Adrien Beck.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal, Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve.
En tout cas, cette affaire Ferrand n'empêche aucunement l'exécutif de travailler. Édouard Philippe a dévoilé tout à l'heure le calendrier de la réforme des retraites, consultations lancées à la fin du mois, qui se termineront à la fin de l'année pour un vote d'ici l'été prochain. Voilà ce qu'il a dit à la veille d'un premier conflit social dans la capitale. Édouard Philippe, qui d'ailleurs sera l'invité du 20h de TF1 ce soir.
Et ce conflit social, c'est cette grève qui risque d'être très très suivie à la RATP. Aucun métro sur les lignes 2, 3, 3 bis, 5, 6, 7 bis, 10, 11, 12 et 13. Un métro sur 3 sur les autres lignes, mais uniquement en heure de pointe et pire encore sur la 9. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on trouve des solutions alternatives.
Une grosse journée de galère, oui, ça risque d'être infernal. Des métros toutes les 40 minutes, enfin, ça fait vraiment très peur. Je risque d'arriver très en retard et de rentrer très tard chez moi vendredi.
Je suis parisien, je travaille à Paris, donc je prendrai le vélo.
Mes salariés travailleront de chez eux, tout va se faire par téléphone, par Skype. C'est le 21e siècle et il faudrait peut-être que les gens de la RATP s'y mettent au 21e siècle.
Ce que je fais en général quand il y a une grève, je vais essayer de faire du télétravail et je reporte mes rendez-vous.
Avec la grande grève qu'il y a eu il y a un an, on a les circuits de rechange, donc on est habitué. Ce serait mieux si ça marchait bien, mais je verrai bien, sinon je viendrai en courant. Ça permet de faire du sport, ouais.
Propos recueillis par Jean-Gabriel Bourgeois.
Europe 1. Il est midi 7. Restez avec nous dans un instant, le haro de 5 grandes villes de France contre les pesticides. A tout de suite. La suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. 5 grandes villes, Pierre, dont Paris, décident d'interdire les pesticides sur leur territoire.
Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand font en effet cette annonce dans l'espoir, disent-elles, de faire changer la loi. Rappelons que nous sommes en pleine polémique sur les distances entre les habitations et les zones d'épantage. On va voir tout ça avec vous, Justin Morin. Mais attendez, je pensais que les pesticides, c'était déjà interdit dans les grandes villes.
Eh oui, effectivement. Pierre, dans les grandes villes, là je parle bien, il faut bien parler des grandes villes. Il y a déjà une loi qui réglemente l'emploi de ces produits chimiques depuis 2 ans. En l'occurrence, les collectivités publiques n'ont plus le droit d'utiliser de pesticides pour entretenir les espaces verts et la voirie. Idem pour les particuliers depuis le début de l'année qui doivent se contenter de produits d'origine naturelle pour leur jardinière. Alors, à la rigueur, ces arrêtés municipaux pourraient concerner les espaces verts privés, une entreprise avec un petit jardin, ou la SNCF par exemple, très friande de ses produits pour nettoyer ses voies. Mais là, ces entreprises le savent très bien, elles ne sont pas soumises à la mesure puisque dans le domaine des pesticides, les municipalités n'ont pas la compétence de les contraindre. Donc, on est bien là sur une action symbolique. En plein débat sur les distances minimales entre habitations et zones d'épandage, le gouvernement va lancer une consultation publique sur la question à partir du 1er octobre en ce qui concerne les communes rural.
Merci, et c'est bien de le préciser Justin Morin, puisque la réaction du côté du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Elisabeth Borne, ministre de l'écologie et des transports, dénonce un coup de com' sur Twitter.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 11, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. La cigarette électronique, Pierre, est-elle dangereuse? En tout cas, les États-Unis annoncent interdire toutes celles qui sont aromatisées, et ce, dans les prochains mois.
Ouais, là-bas, un lycéen sur 4 vapote, selon le département de santé. C'est plus que les 2 dernières années. 450 personnes sont tombées malades, 6 sont décédées de maladies pulmonaires aiguës. Commentaire de Donald Trump, le vapotage, ça n'a rien de formidable, ça crée plein de problèmes. Nous sommes en ligne avec Bertrand d'Otzenberg. Bonjour professeur.
Bonjour, bonjour.
Vous enseignez la pneumologie, mais aussi la tuberculose, la tabacologie à l'Institut Curie. 6 morts, 450 malades graves. On ne peut plus dire que c'est anodin, la cigarette électronique, professeur.
Il y a une confusion dans ce que vous annoncez avant entre deux problèmes qui n'ont strictement rien à voir. Dans un premier temps, il y a des gens qui, par mésusage manifeste, mettent de l'huile, des extraits huileux de cannabis dans des cigarettes électroniques de façon aberrante. Et l'huile qui rentre dans le poumon, ça s'appelle la mayonnaise, et ça détruit les poumons, et c'est pour ça qu'ils sont malades. Ces produits sont strictement interdits en Europe, ne sont pas vendus. L'ANSES contrôle les 35 000 produits vendus en Europe, et il n'y en a pas. Et c'est quelque chose qui est lié vraiment à du mésusage. C'est comme si des gens conduisaient une voiture avec 10 grammes d'alcool et qu'on accusait la voiture. La cigarette électronique est innocente, c'est juste, elle a été utilisée comme outil pour introduire un produit toxique non adapté dans le poumon.
Professeur, oui. quand l'OMS dit, dans tous les cas, les systèmes électroniques d'administration de nicotine sont incontestablement nocifs et devront être régulés, ils ont raison de le faire.
Je suis 100% d'accord avec ce que dit l'OMS. Les produits de la cigarette électronique, c'est un produit qui est beaucoup moins toxique, comme le dit l'OMS, que la cigarette, mais il reste un petit quelque chose. Donc l'OMS dit, ce produit doit donc être réservé aux fumeurs, et je suis 100% d'accord avec ce que dit l'OMS, c'est ce qu'on disait déjà depuis 5 ans en France, et en France, c'est clairement, la vente aux enfants est interdite, ouais. comme le demande l'OMS, il y a des règles comme le demande l'OMS, donc on applique parfaitement les recommandations de l'OMS en France, qui demande à tous les pays du monde d'appliquer la réglementation française.
Vous dites que ça doit être réservé aux fumeurs, c'est-à-dire qu'un jeune qui se dit bah tiens, je ne vais pas commencer à fumer des cigarettes parce que c'est dangereux, lui, il n'est pas fumeur, mais il va quand même se tourner vers la cigarette électronique, il va se dire bah, ça j'ai le droit parce que ce n'est pas dangereux.
Alors, moi je dis en permanence que la cigarette électronique n'est pas un produit anodin, mais c'est un moindre mal par rapport à la cigarette. Et donc un jeune qui commence rien, ben je lui recommande de commencer rien. Oui. Un jeune qui dit, moi ce soir c'est sûr, je vais fumer soit une cigarette électronique, je lui dis, prends pas la cigarette, et donc prends la cigarette électronique. Un jeune qui comme ça prend la cigarette électronique, il a une chance sur 6 de le retrouver fumeur. Un an après, celui qui prend la cigarette, on a une chance sur 2 de le retrouver fumeur. Donc de commencer quand on est adolescent par la cigarette électronique au milieu du tabac, c'est beaucoup moins dangereux. Mais moi, je préfère qu'il commence avec rien du tout. Mais à partir du moment où il commence, plutôt la cigarette électronique. Aux États-Unis, où Trump s'énerve pour la cigarette électronique, ouais. il y a un effondrement du taux de fumeurs chez les jeunes dans les lycées. Ils sont à 3,8% de fumeurs. Et cette diminution a été accélérée avec l'apparition de la cigarette électronique. Donc la cigarette électronique n'apparaît pas comme un produit d'entrée en tabagisme massif chez les jeunes, mais plutôt comme un concurrent ou au moins comme un produit indifférent. Donc il faut regarder, il faut interdire la vente aux mineurs, il faut réglementer, il ne faut pas faire n'importe quoi. Aux États-Unis, ils ont fait n'importe quoi avec une petite cigarette électronique sous forme de clé USB qui ont été vendues massivement aux enfants parce qu'ils ont laissé faire la pub. Il ne faut pas faire ça. Mais il y a des bêtises à faire, mais l'Europe est beaucoup plus raisonnable que les États-Unis qui sont tout à fait excessives dans leurs mesures pour ou contre ces produits.
Merci, professeur Dotzenberg, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Il est midi 15, la suite de votre journal, Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve.
Ils ont changé d'air, les lycéens du Grand Est, désormais en quasi-totalité équipés de PC portables, des ordinateurs offerts par la région. Quels avantages, quelles contraintes? On va voir ça, c'est l'enquête de la rédaction d'Europe 1.
Arthur Mbaché, c'est vous qui avez enquêté justement. D'abord, ce passage au numérique, il consiste en quoi précisément?
Eh bien, ce déploiement massif, c'est 115 000 PC distribués aux lycéens du Grand Est. Et après le bac, chaque élève pourra garder son ordinateur, valeur 390 euros. Ça coûte 40 millions à la région. Donc, fini les gros bouquins dans le sac à dos. Voilà les applications en fonction des éditeurs. Ça va du PDF un peu amélioré à des choses plus évoluées, exercices interactifs, QCM ou vidéo. Conséquence, il y a du Wi-Fi dans les lycées avec les dérives que ça peut impliquer.
Mon voisin de classe, il y a 2 jours en anglais, il a acheté une paire de chaussures... sur internet quoi, donc bon voilà, c'était...
Oui, ça dissipe vachement, oui, ça c'est clair.
Du coup, contre le cyber-vagabondage, les profs mettent en place des stratégies. Il paraît qu'on repère très facilement le regard d'un élève qui lit les sous-titres d'une série Netflix. Petite astuce, se mettre au fond de la classe pour voir les écrans. Et il y a même un lycée à Strasbourg avec un logiciel spécial sur l'ordinateur de l'enseignant, une mosaïque qui affiche tous les écrans des élèves de la classe. Patrice enseigne à Mulhouse.
C'est un outil captivant, il y a de la lumière, enfin, on explique quelque chose et 3 minutes après, il pose une question qui n'a pas de sens puisqu'on vient de l'expliquer mais ils ne l'ont pas écouté, ils ne l'ont pas entendu.
Le plus souvent, la solution, c'est de continuer le bon vieux cahier pour la prise de notes du cours et de faire sortir les ordinateurs juste le temps des exercices. Enfin, Vous connaissiez l'élève qui a oublié son manuel, l'élève qui a laissé sa trousse au CDI. Eh bien, sachez qu'à présent existe l'élève qui n'a plus de batterie.
Merci Arthur Hennebaché, c'est totalement d'époque. Bruno Le Maire annonce que la France refuserait d'autoriser le développement sur le sol européen de la Libra. La Libra, c'est la crypto-monnaie que Facebook veut lancer d'ici l'année prochaine. Le ministre des Finances estime que la souveraineté monétaire des États est en jeu.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 17.
Europe 1. Et vous restez avec nous, bien sûr, sur Europe 1. Dans un instant, l'euro de volée. Et oui, c'est chez nous que ça se passe. Coup d'envoi aujourd'hui. À tout de suite.
À la suite de votre journal, Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Et on parle sport, Pierre, avec le volley à l'honneur aujourd'hui, puisque c'est le coup d'envoi de l'Euro 2019, et ça se passe chez nous en France.
Ouais, cocorico, hein, jusqu'au 30 septembre, avec un premier match ce soir, 20h45 à Montpellier, les Bleus affrontent la Roumanie. La France, qui, rappelons-le, avait emporté l'Euro de volley, c'était en 2015.
Et nous sommes en ligne justement avec Arnaud Dagorne, bonjour.
Bonjour.
Directeur général de la Fédération française de volley. J'imagine que c'est une aubaine finalement cet euro en France pour donner un maximum de visibilité à votre sport.
Exactement, c'est un rêve de tout le peuple du volley, de ses pratiquants, de ses passionnés, d'avoir une compétition sur notre territoire, dans de belles salles, avec des moyens modernes. On n'a pas eu de championnat d'Europe ou du monde depuis 1986. Donc avec une équipe de France qui performe depuis 5 ans, eh bien, c'est vraiment le bon moment pour donner un coup de projecteur à cette discipline qui a des vertus collectives et paritaires qui sont assez exemplaires.
Vous parliez des salles de sport, il y a la télé aussi. Les matchs seront diffusés en clair, pas sur des chaînes payantes. Ça aussi, j'imagine que c'est un grand plus.
Ah, c'est un grand plus depuis quelques années que le groupe L'Équipe et même France Télévisions, hein, quand on a gagné le titre, beIN Sport avait eu l'honneur de laisser France 4 faire la finale contre la Slovénie. On avait eu 1 million de personnes. Le feuilleton de notre qualification en 2016 pour Rio avait été aussi très suivi puisqu'il constitue un record pour L'Équipe. Donc il y a de l'appétence pour le public pour voir de beaux gestes ce sport. Très très esthétique et très très intense lorsqu'il se pratique au niveau comme on va l'avoir dès ce soir.
Alors justement, est-ce que les stades vont être remplis? Est-ce que c'est une des préoccupations? On sait qu'il y a eu déjà pas mal de billets vendus, peut-être pas autant que dans vos espérances.
Alors, dans une grande compétition internationale, vous avez peut-être vu le championnat d'Europe féminin qui était en Turquie. Et bien, les matchs qui ne concernaient pas l'équipe nationale étaient loin d'être pleins. Il y a eu 120 personnes pour la France contre la Serbie, championne du monde, il y a 2 semaines. Donc ce sera le cas, malheureusement, pour les matchs qui ne concernent pas la France. Mais ce soir, on sera plus de 4500 et on va monter en puissance jusqu'au dernier match de poule contre l'ogre italien. Et ensuite, on ira à Nantes remplir la salle. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement sur cet euro qui se confirme depuis son attribution il y a 2 ans. Ouais.
Même si, pardonnez-moi, hein, votre star, Erwin Engapet, c'est un des meilleurs joueurs au monde, mais il n'est pas, connu de tout. C'est pas comme Mbappé, vous interrogez un gamin de 5 ans, vous lui dites Mbappé, vous lui dites Engapet, je ne suis pas sûr qu'il connaisse l'un. En revanche, il connaît forcément l'autre.
Oui, ben le football est le sport roi dans le monde entier. Le volley est le deuxième sport pratiqué dans le monde, il faut quand même le rappeler. Mmh. Erwin Engapet est notre ambassadeur et notre premier joueur connu depuis son geste et depuis le titre 2015 et puis tout ce qu'il fait actuellement dans le championnat quand il était en Italie ou en Russie. C'est vrai que la médiation est moindre, mais l'accueil d'une grande compétition internationale dans cette dynamique des JO que l'on reçoit en 2024 doit servir le volley pour décoller. Et c'est pour ça qu'on est très content du nombre de médias qui vont suivre cette compétition et que L'Équipe va le proposer gratuitement dès ce soir pour L'Équipe de France.
Et puis Arnaud Dagorne, la France a un palmarès aussi. Ça, c'est important de le rappeler.
Ben oui, c'est-à-dire que l'équipe de France a participé à quelques fois aux Jeux. C'est très important pour un sport olympique d'être présent aux Jeux olympiques. Donc c'était le temps en 2016 et on va tout faire au mois de janvier pour se qualifier. Mais c'est vrai que cette génération, après, on a eu 3 titres de vice-champion d'Europe. Mm-hmm. Mais c'est vrai que cette génération, Engapet, Tonuti, Grebennikov et le fils de Laurent Tilly et d'autres, ont permis de gagner des titres depuis 2015. Avec deux ligues mondiales et ce titre de champion d'Europe. Donc l'objectif fixé par le président est d'atteindre le carré à Paris, un peu comme les filles pour Noël Le Graët au foot il y a 2 mois. Donc on va essayer de rejoindre nos grands aînés qui, lors des compétitions à domicile, ont été performants, que ce soit en hand ou en basket, il y a encore 5 ans.
On y croit.
Merci beaucoup Arnaud Dagord. On vous libère parce que je crois que vous avez un double appel. C'est peut-être votre déjeuner qui arrive. Merci Arnaud Dagord d'avoir été notre invité dans Europe Midi. J'ajoute qu'hier, l'équipe de France de basket a réalisé un exploit. Si je dis exploit, c'est même pas un exploit, c'est un truc complètement de dingo, non?
Oui.
En faisant tomber la mythique équipe des États-Unis en quart de finale du mondial. En Chine, le score 89-79. Et demain, les Bleus affronteront l'Argentine pour une place en finale. On y croit.
On y croit, effectivement. Et comme disait Xavier Yvon ce matin sur Europe 1, il y a un commentateur de CBS qui s'est insurgé en disant qu'il ne fallait pas envoyer l'équipe C. Bon, et ben voilà. Nous, en tout cas, on a gagné. C'est bien le principal.
Il est midi 25.